9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui doit arriver aujourd'hui, c'est le retour des Gilets jaunes un an après le début de la mobilisation. Une année de colère sociale, de désordre de rue, affrontements, destructions, de répression musclée et de chair meurtrie. Plus de 4000 blessés selon le bilan officiel, dont 2500 manifestants et des dizaines de gueules cassées, éborgnées ou mutilées par les balles de défense ou les grenades lancées par les forces de l'ordre. Le journaliste David Dufresne, qui a fait le décompte des violences et en a tiré un roman, Dernière sommation, sera mon premier invité. Au générique également, un explorateur. Oui, oui, ce métier existe encore. Et notre invité prétend qu'il a de l'avenir. Christian Clot est un aventurier de l'extrême. Il a affronté les climats les plus intenses de la planète pour explorer son corps et ce monde en mutation. Il publie Explorer demain. Enfin, Jean-Claude Carrière, grand homme de théâtre et de cinéma, inventeur de scénarios, raconteur d'histoires pour les plus grands cinéastes. Il nous ouvre ses ateliers, c'est le titre de son dernier livre.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour David Dufresne.
Bonjour.
Journaliste indigné par les violences policières, alors chaque mot a son importance. Indigné, révolté, oui, sans aucun doute. Journaliste, oui, même si vous n'avez plus de carte de presse, tous ceux qui suivent votre travail savent que vous êtes un maniaque du chiffre juste, de la vérification et de l'exactitude. Violence policière, l'expression est contestée par les autorités qui vous disent que, par principe et si nécessaire pour le maintien de l'ordre, la police est légitime à être violente.
C'est toute la question. C'est celle de la légitimité. D'abord, la légitimité, ça s'acquiert et ça se discute. C'est pas coulé dans le marbre. Ensuite, le maintien de l'ordre, ça répond à deux exigences, la stricte nécessité de l'usage de la force et la proportionnalité. Si l'un et l'autre ne sont pas respectés, eh bien la légitimité est mise en cause. C'est ça, la discussion.
Donc, il faudrait parler de violence illégitime. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il peut y avoir des blessés sans que la violence soit illégitime?
Bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas tellement la question. Vous m'inviteriez pas là si c'était ça. C'est bien parce que l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen ont considéré qu'il y avait des soupçons de violence illégitime et que vous m'invitez. C'est parce que on voit que la justice tarde, et je reste extrêmement gentil en disant ça, à passer pour justement essayer de voir où est-ce qu'il y a eu des cas de violence illégitime. Donc, je vois bien le débat autour de la sémantique. Une fois de plus, c'est pour éviter de parler du fond. Je veux dire...
Le fond, on en parle et on en a parlé et on a vu beaucoup dans les médias, dans la presse, cette semaine encore, des témoignages de ce que j'appelais des gueules cassées. Oui. Il y a eu des drames humains terribles avec des gens qui ont perdu des yeux, dont la vie a été brisée littéralement, et vous en avez rencontré aussi pour votre travail.
Beaucoup, beaucoup. Des gens qui ont perdu un œil. En perdant un œil, ils ont perdu un métier, ils ont perdu parfois leur compagnon ou leur compagne. Je pense à Lilian, ce gamin de 16 ans à Strasbourg qui est touché par une balle de défense, dont on apprend récemment que la justice ne passera pas, qu'elle classe sans suite. Il a été la mâchoire, il a été défiguré. Il s'est nourri à la paille pendant 2 mois, 3 mois. Il a été déscolarisé. Il a dû quitter sa région. Sa mère a fait une lettre vibrante il y a 2-3 jours, dont peu de gens ont parlé, malheureusement. Magnifique lettre, où elle demande justice, où elle réclame justice. C'est de ça dont on parle.
L'opinion est partagée là-dessus, oui. David Dufresne. En avril, 5 mois après le début du mouvement, et alors que des dizaines d'heures d'images d'affrontements et de blessés avaient été diffusées sur les chaînes info, 39% des Français considéraient que l'usage de la force avait été excessif, 29% adapté et 32% insuffisant. Alors je voudrais que vous vous adressiez aux 60% qui ne sont pas de votre avis, qui considèrent que la police a fait ce qu'il fallait, voire n'en a pas fait assez. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
D'éviter de croire que les images sur BFM, CNews sont la vérité.
Oui, elles traduisent une réalité.
Elles traduisent une réalité, mais une perspective. Et cette perspective, c'est celle qui est la plus couramment donnée, c'est-à-dire c'est celle officielle, celle du pouvoir, celle des déclarations. ce qui se passe en ce moment et qui change complètement la donne, je veux dire, y compris auprès de mes sources police, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a deux perspectives. Il y a la perspective de la police, de l'ordre, mais il y a aussi le filmage, la photographie, la documentation en face. Et il faut les deux pour comprendre la situation. Mais vous avez dit 39% de gens qui ont considéré que c'était excessif, non? C'est
oui.
Ça
oui, c'est ça, 39%. C'est énorme. Oui.
Mais c'est énorme. C'est énorme.
Ce que vous pointez, David Dufresne, c'est un changement de comportement, de doctrine dans le maintien de l'ordre à la française, la décision d'aller au contact des fauteurs de troubles.
Oui, c'est-à-dire que pendant longtemps, le maintien de l'ordre à la française, grosso modo, c'était montrer sa force pour ne pas s'en servir. C'était donc ces CRS, ces gendarmes mobiles qui pouvaient, au fur et à mesure d'un cortège, s'équiper en finissant en Robocop. C'est comme ça qu'eux-mêmes s'appellent, je veux dire, voilà. Mais tout le monde a l'image en tête. L'idée d'absorber les coups, d'éviter un maximum de casse humaine. Eh bien, cette vision des choses a été pulvérisée sous nos yeux. Pas depuis les Gilets jaunes en réalité, depuis plusieurs années, il faut remonter à la loi travail, à Nuit debout, aux ZAD. Mais avec les Gilets jaunes, ce que l'on voit, c'est quelque chose d'extrêmement intense, d'extrêmement massif, qui, encore une fois, a interrogé des instances qui sont loin d'être gauchistes. Enfin, l'ONU, c'est pas un repère anarcho-communiste. Le Conseil de l'Europe non plus, le Parlement européen non plus. Pourquoi ?
Et des médecins.
Et des médecins, tout récemment.
Des médecins qui se sont alarmés, notamment des ophtalmologues et des spécialistes des lésions oculaires.
Voilà, et qui demandent un moratoire sur les armes. C'est pas rien. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu une quarantaine de personnes gravement blessées. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je vois ce rapport de ces chirurgiens qu'ils publient dans The Lancet, cette revue anglaise scientifique, en fait, qu'est-ce que je vois ? C'est que mes chiffres sont en deçà de la réalité. C'est-à-dire qu'eux estiment qu'il y a à peu près une quarantaine de personnes qui ont perdu l'usage d'un œil. 40 personnes.
Le désir d'aller au contact, est-ce qu'il n'est pas d'abord du côté des plus violents des émeutiers, de ceux qui voulaient casser du flic, chez qui on a parfois trouvé des bombes artisanales, des cocktails Molotov ou des bombes à acide qui étaient destinées à être utilisées contre les policiers, David Dufresne?
Je vais vous répondre. Mais d'abord, je voudrais juste dire un truc aux auditeurs. Quelque chose qu'ils ne savent pas, qui est extraordinaire. Quand on arrive à Europe 1, il y a une vitrine, et dans cette vitrine, il y a vos archives. Il y a des vieux magnétophones, oui. Des vieux nagras, il y a des vieux micros. Et là, moi, j'étais très ému de voir ces appareils qui ont servi à Europe 1 en 68, quand Europe 1 était Radio Barricade. Puisque c'est comme ça que les autorités appelaient Europe 1, puisque Europe 1 se rendait rue Gay-Lussac. Enfin, on a tous oui. En mémoire ces choses-là.
À une époque où les manifestants ne s'en prenaient pas au commerce, au magasin, bien plus. Il y a eu évidemment des arbres déracinés, des voitures, etc. Mais il y avait une autre forme de violence.
Oui, mais il y avait autant de violence. C'est-à-dire, il faut arrêter de penser que les viticulteurs dans les années 60 armés de fusils de chasse, ça n'a pas existé. Que les marins-pêcheurs armés d'harpons en 1994 à Rennes contre les policiers, ça n'a pas existé. Si on regarde l'histoire, la violence n'est pas plus grande aujourd'hui. En revanche, ce qui est notable, ce qui est nouveau, c'est la récurrence. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est tous les samedis. Et qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à aller au contact. Mais ça ne suffit pas de noter ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi les gens vont au contact. Parce que c'est une colère sociale et que si la seule réponse, elle est policière, elle sera toujours insuffisante.
David Dufresne, vous restez avec nous dans un instant. On va parler de votre livre, de votre roman et des aventures de votre double, Étienne Dardel.
Europe 1. De 9h à 10h le samedi, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Avec le journaliste David Dufresne, auteur chez Grasset d'un roman à couverture jaune, comme les gilets, dernière sommation, avec 1000 détails vrais sur votre double, d'abord Étienne Dardel, sur ce syndicaliste policier qui a bien dit à la télé après la main arrachée d'un manifestant devant le Palais Bourbon, c'est bien fait pour sa gueule. Sur ce magasin de surplus militaire du 11e arrondissement de Paris, face au square Gardette, où les policiers achètent du matériel non homologué, etc., etc. Beaucoup de coulisses pas très reluisantes au sein de la hiérarchie policière. Un préfet qui surveille tout et tout le monde grâce aux caméras vidéo, c'est du vécu ou c'est du roman ?
Alors, le roman, c'est une autre façon de dire la vérité. Voilà.
Donc c'est la vérité.
Oh. Alors, attention, Aucun des personnages du livre n'est identifiable. C'est-à-dire que ce sont tous des personnages composites. C'est-à-dire que je prends effectivement à un syndicaliste de police une déclaration, à un autre autre chose, etc. etc. Le préfet, ça n'est pas le préfet actuel, ni même le prédécesseur que j'avais connu dans une autre affaire dite de Tarnac. Mais en revanche, les habitudes, les us, les coutumes, les intrigues de couloir, tout ça est tout à fait vrai. Et l'histoire des caméras, évidemment que c'est vrai. Je veux dire, la préfecture de police se considère elle-même comme la concierge de Paris. Je veux dire, de tout temps, on sait très bien que la préfecture de police a tenu... Il y a des mémoires d'anciens préfets qui le racontent de manière déguisée. Le roman permet justement de le dire de manière brutale. Mais par exemple, prenez l'affaire Benalla, les vidéos qui circulent, les vidéos de télésurveillance...
De la place de la Contrescarpe.
De la place de la Contrescarpe, c'est bien ça. C'est-à-dire c'est qu'à un moment donné, on utilise les images de caméras de surveillance de la ville de Paris ou de la préfecture à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont destinées.
Du coup, vous êtes surveillé. Étienne Dardel, il sait qu'il apprend de la bouche du syndicaliste qu'il a été vu à tel ou tel endroit.
Absolument.
Ouais.
Oui.
Et ce syndicaliste-là qui fait, alors vous dites que c'est un personnage composite, mais enfin on en reconnaît quelques-uns, qui fait la pluie et le beau temps au sein de la police et qui contribue à la chute du préfet, qui exerce même un chantage, ça, c'est crédible, c'est vrai, c'est vécu.
Écoutez,
ça...
vous recevez régulièrement des syndicats de police, vous savez quand même leur pouvoir. C'est-à-dire que c'est une spécificité du ministère de l'Intérieur, c'est que c'est une cogestion entre les syndicats de police et le ministère. Donc les uns et les autres se tiennent, on va dire. Donc tantôt c'est le pouvoir politique qui a la main, tantôt ce sont les syndicalistes. Et je trouve intéressant de le raconter parce que quand on le sait, on comprend mieux certaines déclarations. On voit très bien quels sont les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir entre les syndicats eux-mêmes, les syndicats et le pouvoir politique, mais aussi médiatique.
Alors, on voit bien ces jeux qui contribuent aussi à l'aggravation de la répression, à la façon dont la police, les forces de l'ordre répliquent plus durement... aux manifestations samedi après samedi dans Paris. Mais qu'est-ce que vous faites de la... Je reviens à l'opinion dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi une pression sociale. Après le saccage de l'Arc de Triomphe, cette manifestation de début décembre, on avait vu taguer sur l'Arc de Triomphe les gilets jaunes vaincront, etc. Il y a eu tout un débat dans l'opinion pour savoir si le gouvernement n'avait pas été laxiste en laissant faire les gilets jaunes. Il y a une pression aussi pour davantage de maintien de l'ordre.
Oui, mais justement, la pression, elle n'est pas univoque. C'est-à-dire que ce sont des zones grises de partout. Et le roman, en allant de part et d'autre de la barricade, en allant côté manifestant, côté policier, côté politique, côté médiatique, parce que cet aspect-là joue énormément, je pense qu'on est au plus près justement d'une vérité qui est beaucoup plus complexe que simplement le tag « Les gilets jaunes triompheront », qui était le tag sur l'Arc de Triomphe. Mais par exemple, l'Arc de Triomphe, on en a fait un symbole républicain. Ça n'est pas un symbole républicain, c'est un symbole. C'est un symbole de la France. Mais c'est Napoléon. Je veux dire qu'on nous a dit la statue, c'est Marianne. Non, ce n'est pas Marianne. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ça fait partie de l'écume des jours. Mais soyons précis. Allons au bout des choses et regardons qui théâtralise, qui dramatise, qui utilise la violence. Ces questions-là me semblent plus intéressantes que simplement de se dire « j'ai une opinion vite fait, il y a les gentils policiers, les méchants manifestants ». Non, c'est plus complexe que ça.
Étienne Dardel, votre double, il a maintenant son site web et aussi un compte Twitter. Donc il va continuer à travailler sur le sujet, David Dufresne.
Il faudrait que je l'appelle. Je reviendrai, je vous dirai.
Je pense que vous êtes en contact. Merci beaucoup, David Dufresne. Dernière sommation, votre livre est paru chez Grasset. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, Christian Clot, aventurier, explorateur, qui pense que le 21e siècle est encore un moment d'exploration de la planète et du corps humain. A tout de suite.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine. Se poursuit avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour, Christian Clot.
Bonjour.
Je vais commencer cet entretien comme une fiche signalétique. Votre nationalité ?
Suisse et français.
Les deux. Et votre profession ?
Explorateur-chercheur.
Alors ça, c'est extraordinaire parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur cette planète qui puissent afficher ça comme un métier. C'est un nom qui fait rêver, qui a fait rêver des millions d'enfants et d'adolescents, mais on se dit que c'est fini, tout a été exploré, chaque recoin de la planète est connu, et avec vos expéditions et vos expériences, vous démontrez le contraire. Vous racontez que vous avez eu la révélation de ça il y a 20 ans au Népal.
Oui, moi j'étais comme beaucoup d'amis, aventuriers, je partais dans le monde entier, je faisais de la montagne, je faisais plein de choses, et puis un jour je suis parti au Népal faire le tour du Népal à pied. 800 km de long, 200 km de large, 6 mois et demi d'expédition. Et puis là, on arrive dans des zones où il n'y avait pas du tout de cartographie, dans l'extrême ouest. Et dans ces zones où il n'y a pas de cartographie, on a rencontré des populations qui n'avaient encore jamais vu de personnes extérieures, donc d'étrangers, de blancs, entre guillemets, qui arrivaient, qui avaient des fermetures éclairs. Ils n'avaient jamais vu une fermeture éclair, jamais vu un nylon, voilà. Et ça, c'était une révélation, d'abord parce qu'ils ont découvert notre monde, mais aussi nous ont montré le leur ensuite. Et là, j'ai réalisé à ce moment-là que cette idée qu'on savait déjà tout, qu'on avait toute la connaissance, qu'on avait rencontré tout le monde, était totalement fausse. Et j'ai décidé de basculer vers ce métier d'exploration.
Vous êtes devenu un aventurier de l'extrême, avec des expériences. Un mois dans le désert le plus chaud du monde, en Iran, 58 degrés la journée, 46 la nuit. Un mois dans la région la plus froide et la plus sèche, en Sibérie. Un mois en Patagonie. Vous êtes projeté dans une eau à 2 degrés. Normalement, on survit combien de temps ?
On dit qu'on survit 5 minutes dans une eau de ce type-là.
Et vous êtes resté ?
Je suis resté une petite vingtaine de minutes. Mais c'est là qu'on voit aussi cette projection mentale. C'est que mon premier réflexe, quand je tombe dans cette eau, je sais qu'elle est à 2 degrés et je sais que je vais devoir rester plus de 5 minutes parce que mon embarcation est trop loin. Et mon premier réflexe, c'est de me dire « c'est foutu ». Et ça, je crois que c'est un réflexe qu'on a tous face à des événements qui nous paraissent tellement énormes. Notre premier réflexe, c'est de dire « on m'a toujours dit que dans cette situation-là, c'était foutu ». Donc après, c'est la question de ce qu'on fait de notre cerveau. Est-ce qu'on reste dans cet état d'esprit ou au contraire, on se dit « bon, de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis dans cette eau, je dois bien essayer quelque chose ». Et quand on commence à travailler dans faire quelque chose face à une situation, on peut réellement transformer cette situation.
C'est une expérience de quoi ? De survie de...
Alors, sur l'instant, c'est une expérience de survie, mais c'est ce genre d'expérience que j'essaie de vivre, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un institut de recherche qui questionne la capacité humaine d'adaptation, et notamment notre cerveau, comment il se transforme. Et toutes ces missions dont vous venez de parler, elles sont faites pour étudier notre capacité cognitive d'adaptation aux situations changeantes. Et ça tombe bien, parce que le monde change assez aujourd'hui pour qu'on se pose des questions.
Ben oui, alors là, c'est le grand froid, mais il y a aussi la chaleur. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, dans le désert iranien, par ces températures qui sont... insensé.
Ce que nous apprennent vraiment ces milieux, c'est la temporalité. Dans un désert comme le désert du Dartelout en Iran, on a une systémique qui revient tous les jours. Tout est toujours pareil. Et il faut arriver à mettre son état d'esprit dans « ok, ben, je vais vivre toujours la même chose, donc je dois aller m'accrocher aux instants où je sais que ce sera mieux. » Par exemple, la nuit, où il fait un peu plus frais. Contrairement à une Patagonie où ça change tout le temps. Et là, on doit être en vigilance permanente. Et à chaque fois, notre cerveau doit réagir un peu différemment et on doit réussir à mettre son cerveau en adéquation par rapport à la situation réelle et pas celle qu'on aimerait avoir. Donc, en fonction des types de milieux, on doit s'adapter totalement. Et ça, c'est ce qu'on essaie de comprendre. C'est comment aujourd'hui, dans un monde qui change très vite, on va trouver les solutions pour qu'on puisse s'adapter.
Bon, comment peut-on être explorateur au XXIe siècle ? C'est le sous-titre de votre livre « Explorer demain » et vous posez la question vous-même à la fin de votre livre. Pourquoi ? Et si on laissait la planète, les dernières populations indigènes, les écosystèmes tranquilles, si on arrêtait cette progression sans frein qui porte en elle le fruit de notre propre destruction ? Et votre réponse, Christian Clos ?
C'est une vraie question, mais malheureusement, l'histoire a montré qu'on n'arrivait pas à arrêter l'innovation, qu'on n'arrivait pas à arrêter cette envie qui est fondamentalement ancrée en nous de continuer la progression. Donc comme on sait que c'est ancré et qu'on ne pourra pas l'arrêter, je crois qu'il faut la regarder et la maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut continuer cette progression, ce questionnement, notre aventure humaine dans notre planète, puis peut-être au-delà. Mais il faut le faire en regardant et en prenant des décisions éthiques à chacune de nos actions. Je crois que l'exploration aujourd'hui, elle se doit d'être devenue une exploration éthique, une exploration de l'humain, une exploration de notre futur. Parce que finalement, quand on décide de faire quelque chose, qu'on commence à le faire, parce qu'il faut commencer, il faut bien essayer. Dès qu'on voit qu'il peut y avoir une limite, il faut savoir dire stop et partir sur une autre direction.
Vous explorez aussi les côtés moins reluisants de la planète et vous en voyez la dégradation ?
Oui, on voit des dégradations terribles. Au Népal, où j'étais justement il y a 20 ans, où j'arrive dans ces territoires où il n'y a pas de plastique et pas de verre du tout. 15 ans plus tard, quand j'y retourne, ils sont saturés de plastique. Dans les sols, ils ne peuvent plus cultiver tellement il y en a. Donc ça va très très vite. Des glaciers qui fondent, j'en ai vu beaucoup. Moi, je suis beaucoup plus inquiet par la pollution plastique et par la pollution des sols que par le réchauffement en tant que tel, qui évidemment est un problème aussi, mais ça va très vite, les pollutions. Et puis, il y a clairement aujourd'hui, on est 7,5 milliards sur la planète et il y a des gens qui sont aujourd'hui laissés pour compte. Et on doit chercher à comprendre comment on peut les aider, notamment toutes les migrations qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont à quelques millions, dans 20 ans, elles seront de 100 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Comment est-ce qu'on les aide? Et ça, c'est aussi partie du travail de l'explorateur aujourd'hui.
Explorer demain, quels sont vos projets d'explorateur aujourd'hui?
Alors, les projets principaux, c'est continuer ce travail sur le cerveau. Donc, on va partir dans une mission extraordinaire avec 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, dans 4 milieux différenciés. Un peu ce que j'ai fait en solitaire, mais cette fois avec un groupe, pour comprendre comment un groupe humain s'adapte. Et puis, moi, je travaille aussi sur toutes les personnes qui doivent s'adapter de manière obligatoire, notamment les migrants. Donc, je pars avec des migrants sur le terrain pour voir ce qui se passe dans leurs travaux. Et puis, avec des entreprises aussi, hein, qui sont en train de se modifier profondément. Et on étudie aussi des groupes pour notre. Donc finalement, l'exploration aujourd'hui, elle m'a amené à questionner non plus forcément le territoire. Ça, je crois qu'on a dépassé ce stade de l'exploration pour entrer dans une exploration de notre futur humain et de l'humanité en général.
Et je disais tout à l'heure que c'est un métier qui faisait rêver, un nom qui fait rêver. Et vous rappelez au début de votre livre, les grands explorateurs, quelques grandes histoires d'exploration. Et pour des jeunes ou des adolescents qui sont... À l'écoute, il y a dans votre livre une sorte de mode d'emploi. Comment devenir explorateur avec quelques règles?
Oui, je crois que c'est d'abord un état d'esprit. Il faut rester très ouvert à tout, il faut rester curieux, il faut être capable de ne pas se fermer à une information. On peut être très spécialiste dans un domaine, mais il faut savoir que ce domaine fait partie d'un tout, donc il faut regarder un peu partout. Puis surtout, il faut y aller, il faut oser. Il faut avoir ce rêve et oser suivre son rêve, parce qu'aujourd'hui, on nous donne beaucoup d'interdits, on nous dit beaucoup ce qui n'est pas possible. Et bien, l'explorateur, il doit aller chercher tout ce qui est possible au-delà de l'impossible. Et c'est un métier qui est merveilleux. Et quand on le voit comme ça, on peut toutes et tous être exploratrice et explorateur, mais c'est une volonté qu'on doit garder au quotidien.
À condition de bien choisir ses cibles, ses destinations et ses moyens pour...
Oui,
pour ne pas être, pardon pour le jeu de mots, un explorateur qui explore à tort.
c'est pas faux. On a des exemples dans le passé qui ont montré la limite de notre métier, donc on doit l'intégrer. On ne peut plus aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un vrai message pour toutes les personnes qui vont partir dans le spatial, c'est une promesse extraordinaire, hein, la Lune, Mars, moi je suis fasciné par ça, mais attention à ne pas reproduire ce qu'on a fait en Amérique par exemple. On n'a pas le droit aujourd'hui de se fermer à cette idée qu'on a l'information, qu'on a créé beaucoup de torts à certains moments, et qu'on a la possibilité de faire la même chose sans créer ce tort. Donc faisons acte de cette notion-là et agissons avec plus de dignité.
Explorer demain, le livre vient de paraître chez Robert Laffont. Merci beaucoup Christian Clos.
Merci.
D'être passé par le studio d'Europe 1 entre deux explorations. Merci à vous.
C'est un plaisir. Europe 1.
Dans un instant, un grand homme de théâtre et de cinéma qui nous livre ses secrets de fabrication. Plus de 60 années de création culturelle. Jean-Claude Carrière avec nous dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Jean-Claude Carrière.
Et bonjour Patrick.
Scénariste, dramaturge, romancier, essayiste, traducteur et même auteur de chansons et de livrets d'opéra, vous racontez vos ateliers, le livre paraît chez Odile Jacob, soit quelques notes concrètes et pratiques sur vos 65 ans de travail pour le théâtre et le cinéma, pour approcher non pas le mystère de la création, expression que vous n'aimez pas, vous la trouvez ridicule. Pourquoi, il n'y a pas de mystère?
Non, il n'y a pas de mystère, il y a du travail.
Du travail.
Il faut au départ un certain point de départ, une certaine idée d'une situation. Aristote le disait déjà. Il faut ce qu'on appelle un intérêt dramatique, c'est-à-dire une question dont nous attendons la réponse. Qui va gagner, qui va l'emporter, etc. Il faut ça au départ, il faut une situation. À part ça, tout peut se développer dans tous les sens que l'on désire. Quelquefois, ce qu'on a pris au départ pour une tragédie devient vite une comédie, et vice-versa, ça peut arriver.
Du travail, du sens de l'observation, du travail encore, de l'imagination,
oui,
et du travail.
Vous avez dit le mot très juste, sens de l'observation. Ça commence par la réalité, toujours.
Vous racontez comment certaines idées vous sont venues à des terrasses de café en compagnie
oui,
de Pierre Etex.
Mon travail a commencé avec Pierre Etex et Jacques Tati.
Bien sûr.
À la terrasse d'un bistrot, on se met à la terrasse et on regarde. On regarde ce que la réalité nous apporte. Et Tati dit là... Dites donc, la bonne femme qui passe là-bas avec son sac ouvert, hein ? Vous avez vu ? Oui, j'ai déjà vu. Hein ? Et si un chien passait et pissait dedans, qu'est-ce qui se passerait, etc. Oui, tout est possible. Tout devient, l'univers même devient un prétexte à un film de Jacques Tati ou de Pierre Etex.
Tout au long de ces travaux d'écriture, Jean-Claude Carrière, vous nous montrez, exemple à l'appui, comment vous inventez, comment vous adaptez, on va revenir sur le Cyrano avec Depardieu, et comment vous coupez beaucoup et vous vantez les vertus du montage et de la coupe. Vous dites que personne ne regrette jamais aucune coupe dans un
Absolument,
film.
Absolument, personne, jamais, ni au théâtre. Et c'est très curieux parce que dès le départ, j'ai commencé à faire du montage. J'ai même monté des films que je n'avais pas écrits. Et je demande toujours, quand j'écris un scénario, à pouvoir participer au montage après. Parce que c'est une autre vision du film et c'est une autre manière de le traiter. Et quelquefois, un montage peut détruire un film ou au contraire, arriver à le perfectionner et à découvrir son secret. C'est très, très intéressant.
Vous racontez aussi comment vous dialoguez un film presque sans dialogue, c'est l'histoire de La piscine de Jacques Deray, film mythique qui relance Romy Schneider, qui marque ses retrouvailles avec Alain Delon. Delon, Romy Schneider, Maurice René, Jane Birkin, qui échangent des regards davantage que des paroles.
Oui, il y a 9 pages de dialogue dans La piscine.
C'est pas
Et
beaucoup.
Cela vient d'une discussion avec François Truffaut, qui m'avait dit, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans Casque d'or, le film de Becker, que nous aimons tous beaucoup, il y a 7 pages de dialogue.
Ah oui.
C'est-à-dire très peu.
Avec Reggiani et Simone Signoret.
Oui, j'ai fait la même chose avec La piscine, j'ai 2 pages de plus. Bon, et c'était difficile parce que c'était un huis clos entre 4 personnages. Et Jacques Deray m'a dit cette phrase inoubliable. Il venait de faire un film avec Michel Audiard, qui était un ami que j'aimais beaucoup. Il m'a dit, quand tu tournes un dialogue d'Audiard, les mots sont les vedettes. C'est-à-dire tu es obligé de filmer les mots plus que les personnages. Toi, moins tu me mets de dialogue, plus tu m'obliges à avoir de l'imagination comme mettant en scène.
Alors, il y a quand même quelques lignes de dialogue, dont cette petite perfidie de Maurice René lors du dîner qui rappelle de cette façon-là, vous allez l'entendre, à Alain Delon, qu'il a eu une vie, lui aussi, avec Romy Schneider.
La cuisine vietnamienne, tant qu'en meilleur. Ah oui, les restaurants à Amsterdam, les restaurants indonésiens, superbes.
Rappelle. Il se tourne vers Romy et lui dit « Oui, tu te rappelles ?» Ce qui, évidemment, est un coup de poignard pour Alain Delon, son ami, entre guillemets.
Vous dites, Jean-Claude Carrière, que parfois, quand vous avez un dialogue à écrire, vous imaginez au temps du cinéma muet.
C'est-à-dire, je me dis, quand j'ai une grande scène à écrire, si j'étais en 1925, dans cette scène-là, quelles sont les 2 ou 3 répliques où je serais obligé d'avoir un sous-titre ? C'est-à-dire que je ne pourrais pas exprimer autrement que par des mots. Et je pars de ces 3 phrases-là, que je rajoute bien sûr parce que je peux, mais le moins possible.
C'est-à-dire comme les cartons du cinéma muet.
Exactement. On voit dans La piscine, par exemple, à quel point les regards, les démarches, tout peut remplacer des mots. C'est évident. Ça.
Jean-Claude Carrière nous dévoile ses secrets de fabrication et dans un instant pour Depardieu, Danton et Cyrano.
Europe 1. Comme chaque samedi, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine.
Avec Jean-Claude Carrière qui nous dit, pour paraphraser un livre célèbre, comment il a écrit certains de ses films et comment il a adapté des grands textes. Jean-Claude Carrière, vous rappelez le travail considérable qu'il a fallu pour transposer Cyrano de Bergerac au cinéma, pièce... évidemment,
pièce de théâtre, oui.
Pièce de théâtre, très longue, elle dure 4 heures, qu'il vous a fallu raccourcir et modifier...
Oh, j'ai
sans la trahir.
Réécrit sans que jamais aucun Rostandien s'en préoccupe, à peu près 150 Alexandrins. Au 4e acte de Cyrano, pour vous donner juste cet exemple, l'armée française est encerclée par les Espagnols à Arras. On ne peut pas sortir, ils crèvent de faim, ils n'ont aucun. Mais cependant, tous les matins, Cyrano va poster une lettre, soi-disant, à Roxane, donc il traverse.
Oui.
Comment ça se fait au théâtre? Ça se fait en coulisses. Ouais, c'est facile. Mais au cinéma, vous ne le pouvez pas. Le cinéma est un art réaliste. Donc, vous ne pouvez. La caméra filme ce qu'elle voit. Donc, il fallait trouver une astuce pour qu'on a cherché des quantités de choses auxquelles j'avais pensé. Et un jour, quelqu'un a dit à Jean-Paul Rapneau : mais au XVIIe siècle, le blé était de 40 cm plus haut qu'aujourd'hui. Donc, on pouvait se cacher dans un champ de blé. Or, comme nous tournions un an plus tard, en Hongrie, on a fait un champ en Hongrie qu'on a ensemencé avec des graines qui nous ont été prêtées par le Muséum d'histoire naturelle, qui avait gardé des graines de blé du, à condition, nous ont-ils dit, que vous nous les rendiez. Et alors, on a attendu tout l'hiver pour savoir si ce blé allait prendre. Au mois de mars, on a vu des jolies petites pousses qui apparaissent. La moisson était formidable, le blé. Et ça a même fait l'affiche du film. Ouais. Et Cyrano pouvait se glisser entre les épis et ne pas apparaître. Et on a rendu au Muséum d'Histoire Naturelle 3 fois plus de graines, parce qu'on a moissonné, que ce qu'ils nous avaient prêté.
Histoire extraordinaire. Et puis, dans l'adaptation que vous avez imaginée, écrite, un petit miracle, quand Cyrano reprend lui-même sa tirade des cadets de Gascogne.
Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, menteurs et bretteurs, prêteurs et menteurs, sans vergogne, tous plus nobles que... plus nobles que des filous, parlant baston.
Parlant blason, lambelle, bastogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux.
Cyrano qui reprend sa tirade, sa réplique, ça c'est pas dans la pièce de Rostand.
Non, alors, mais ça a une histoire.
Voilà.
C'est-à-dire que quand le scénario a été écrit, on l'a fait lire à un Rostandien, quelqu'un qui sait tout sur Cyrano. Il nous a dit, mais comment vous est venue cette idée? Et je lui ai dit, voilà, parce que ça nous a paru invraisemblable que ce soit quelqu'un qui présente au lieu de Cyrano, qui est le poète du régiment, les soldats au colonel qui vient les visiter. Et il nous a dit, mais vous savez que c'était comme ça dans le manuscrit d'Edmond Rostand. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé que pendant la répétition, Coquelin Cadet, qui jouait Cyrano, a dit, ça c'est trop bon, je le prends pour moi.
Eh oui.
Ouais, c'est, donc on rétablissait en quelque sorte justice à Edmond Rostand longtemps après sa disparition.
Gérard Depardieu, encore dans le Danton de Vajda, ce film, je le sais, est l'une de vos grandes fiertés, Jean-Claude Carrière. Là aussi, il vous a fallu inventer les paroles de Danton devant le tribunal révolutionnaire qui va le conduire à l'échafaud, les paroles et la voix de Gérard Depardieu.
Malheur aux hommes forts et aimés du peuple! Longue vie aux médiocres, taciturnes, amères dans la solitude de leur bureau. La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants.
Et la voix de Depardieu, Danton, qui
ça,
se casse.
Ça, c'est historique. Danton, qui comptait beaucoup sur sa voix pour se sauver, a perdu sa voix au moment de sa plaidoirie. Et beaucoup de gens ont été persuadés qu'il avait vraiment perdu pendant le tournage.
Depardieu.
Depardieu. Ouais. Ce qui est pas vrai, il le joue. Mais il le joue tellement bien. C'est un moment extraordinaire. C'est un plan qui dure 8 minutes, ce qui est très très long. Au point que j'avais jamais vu ça. À la fin de la première prise, tous les figurants ont applaudi.
Ouais. Et vous racontez comment, avec le réalisateur, vous écoutez ensuite Depardieu. Au oui. Casque, vous écoutez sa
uniquement
voix, sa
pour
partition.
Le plaisir, il n'y avait rien à doubler. On était à la Garenne Colombe en train de faire les doublages des acteurs polonais. Et l'ingénieur du son nous a dit, enfin, allez, on va se faire un petit plaisir. Et on a écouté toute la tirade, rien que pour ça, où il n'y avait rien à doubler.
Autre immense acteur, autre éloquence, celle de Jean-Louis Trintignant dans La Controverse de Valladolid. Les Indiens d'Amérique font-ils partie du genre humain et du royaume de Jésus? Devons-nous les convertir de force pour le salut de leur âme? Réponse de Sepulveda Trintignant.
Que vaut-il mieux? Une vie terrestre sans gloire, dans l'erreur et dans le péché, suivie d'une éternité de souffrance, ou bien une vie plus courte, plus dure peut-être, et plus vite frappée par la mort, mais suivie d'une éternité de lumière auprès du vrai Dieu vainqueur. Est-il quelqu'un ici qui ne connaisse pas la juste réponse ?
Jean-Louis Trintignant dans La Controverse de Valladolid. C'est là, dites-vous, Jean-Claude Carrière, qu'un auteur se doit de penser contre lui-même.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire de donner à celui dont il ne partage pas l'opinion les meilleurs arguments possibles. Or là, que vaut-il mieux une vie terrestre pauvre suivie d'une éternité de lumière, comme il s'adresse uniquement à des ecclésiastiques qui tous ont la foi et la même foi que lui, il sait que cet argument est sans réplique. Personne ne peut dire le contraire, et Las Casas ne pourra s'en tirer que par l'émotion. Après ça, Las Casas se met en colère, jette les papiers, parce que, au point de vue de ce qu'on appelle l'argumentation en matière d'avocat, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a les meilleurs arguments, c'est Pulveda.
Et Valladolid, la pièce et le film servent aujourd'hui de modèle, de référence aussi pour à la fois l'art oratoire et pour la...
Oui, paraît qu'on l'étudie à la faculté de droit.
Dans votre atelier, dans vos ateliers, Jean-Claude Carrière, il y a le travail avec de très grands metteurs en scène, Buñuel, Peter Brook, Pierre Etex, Louis Malle, Milos Forman, Godard, Rapneau, deux palmes d'or à Cannes, faut-il le rappeler, le tambour de Schlöndorff, et le ruban blanc de Haneke.
Deux films allemands.
Oui, en langue allemande.
Qui est une langue que je ne parle pas.
Il y a aussi vos échanges avec les acteurs. Par exemple, sur le scénario d'Un papillon sur l'épaule, un homme ordinaire pourchassé, traqué, sans raison apparente. Lino Ventura veut savoir. Il vous interroge sur le mystère du film.
C'est-à-dire, il y a une valise qu'il faut transporter. Il y a quelque chose dans cette valise
une
que
manette.
Personne n'arrive une manette, n'arrive à ouvrir. Et il voulait absolument savoir ce qu'il y avait dedans. Or, tout le principe du film, c'est de ne pas le savoir. Jamais, jusqu'à la fin. Alors, un jour, pour m'en tirer, je discutais avec lui, chez lui. On avait souvent de longues discussions. Je lui dis, écoute, Lino, je vais te dire le secret. Tu sais ce qu'il y a dans la mallette? Il me dit, non, il y a le scénario. Ça l'a tellement surpris qu'il a accepté tout de suite.
Formidable. Vous parlez aussi de vos échecs, de vos rares moments de découragement. Et dans ces instants-là, vous pensez à un souvenir merveilleux, un instant de nuit avec Rudolf Nureyev et Sylvie Guilhem.
Ça, c'est quelque chose d'inoubliable. J'étais très ami avec Nureyev. Et un jour, il y avait Le Jeune et la Mort, donc le ballet mis en scène par Jérôme Robbins, qui était venu pour cela. À l'opéra avec Sylvie Guilhem, qui est la plus grande danseuse française du XXe siècle. Et après ça, on était invité à un petit dîner à l'opéra, on était 7 ou 8, et moi j'étais à la table de Rudolf, mais pas à celle de Sylvie Guilhem. Je demande à Rudolf, qu'est-ce qu'elle peut encore gagner? Et il me répond, ce que gagne un vieux vin en vieillissant. Et après ça, il était déjà 1h du matin, il a demandé à Sylvie de venir chez lui, parce qu'il avait quelque chose à lui montrer. Je leur ai demandé, est-ce que je peux venir? Oui, alors on est allés tous les trois chez Rudolf. Il avait une cassette d'une grande danseuse anglaise avec laquelle il avait travaillé, et il voulait juste montrer à Sylvie Guilhem un mouvement de main, un mouvement de bras et de main très particulier qu'avait Margot Fontaine. Donc, ils sont restés, mais une heure et demie, tous les deux assis par terre, absolument passionné, jusqu'à 3 heures du matin, à regarder ce geste et à essayer de le faire. Ça, c'est pour moi, c'est un exemple de passion du travail, de passion de son art, que dans mes moments de découragement, je me rappelle.
Le travail, et encore le travail. Et pour terminer, vous citez Flaubert.
Le danger, c'est de conclure. Il ne faut pas conclure. Donc, bien. Nous ne conclurons pas.
Merci, Jean-Claude Carrière. Merci, vraiment, jeune homme de 88 ans.
Oui.
Atelier vient de paraître chez Odile Jacob.
Merci. Atelier avec un S. Hein.
Merci à vous. Europe 1. Et merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 9h10, sur Europe 1 pour C'est arrivé demain. Dans quelques minutes, vous aurez, comme chaque samedi matin, Mediapolis, dirigé par Olivier Duhamel. Bonjour Olivier.
Oui, avec Catherine Ney, notre invitée aujourd'hui. Monsieur. Caroline Forest, vous connaissez Caroline Forest?
Oui.
Hein, journaliste, auteur, réalisatrice de films, qui vient de réaliser Sœurs d'armes et qui va commenter l'actualité avec nous, Patrick.
Ce sera très bien dans quelques minutes. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.